Chapitre 7. 2 octobre 1998, 9h28. Marc Vitral fixait la pendule Martini. À la table la plus proche, face à lui, une ravissante étudiante brune, les cheveux très courts coupés à la garçonne, le dévisageait de ses yeux océans dans lesquels n'importe quel homme aurait plongé sans hésitation. Marc détourna le regard, insensible. Cela dut exciter encore davantage la belle étudiante. Ce type blond, perdu dans ses pensées, dans son chagrin, les yeux brillants de larmes qui la traversaient comme si elle était invisible. Il devait être rare les hommes indifférents à sa beauté. Forcément, elle n'était attirée que par les hommes indisponibles, les fantômes inaccessibles. Marc ressassait la description par grand-duc de ses parents, Pascal et Stéphanie, dont il n'avait pour tout souvenir que de vieilles photographies. Il leva la main vers Mariam. La serveuse pensa qu'il voulait réclamer son cadeau en avance, gagner quelques minutes. Elle observa d'un air désapprobateur la pendule. « Mariam, tu me mets un croissant ? Je n'ai rien mangé ce matin. Je n'ai pas l'habitude que Lily me donne rendez-vous aussitôt. » Mariam afficha un large sourire rassuré. Quelques secondes plus tard, elle apportait la viennoiserie dans une assiette. Le vacarme aux Lénine devenait assourdissant. L'étudiante aux yeux abyssaux continuait de couver Marc, quémandant un regard désespérément. Peine perdue. Marc déchira la moitié du croissant qu'il avala d'un coup. 9h33. Il se replongea dans les notes de Grand-Duc. Journal de Crédule Grand-Duc.
Vous serez d'accord avec moi, je pense. Pour les Vitral, pour les Carville, la vie est tout de même une sacrée salope. Elle leur annonce d'abord qu'un Airbus s'écrase, qu'il n'y a pas de survivants. Elle leur enlève d'un coup les deux générations sur lesquelles ils avaient construit leur avenir, fils et petite-fille. Puis une heure plus tard, elle leur annonce radieuse un miracle. L'être le plus petit, le plus fragile, a été épargné. Et l'on en vient même à être heureux, à remercier le ciel, à oublier la disparition des personnes si chères. Mais la vie ne retire le poignard que pour mieux l'enfoncer une seconde fois. Et si ce petit être miraculé, la chair de votre chair, le fruit du fruit de vos entrailles, ce n'était pas le vôtre? On s'affaira au commissariat de Montbéliard dès l'aube, ce 23 décembre 1980. Le commissaire lui-même avait pris en charge l'affaire. Vatelier, un flic rodé et dynamique, qui portait une barbe brune laissée en jachère, mais assortie à son blouson de cuir. La Turkish Airlines avait faxé la liste des passagers dès 7h du matin. Fait cocasse, qui avait dû amuser l'équipage sur le tarmac de l'aéroport Atatürk d'Istanbul, il y avait deux bébés dans l'avion. Deux jeunes Françaises venues au monde presque le même jour. Lise Rose de Carville, née le 27 septembre 1980. Émilie Vitral, née le 30 septembre 1980. Drôle de coïncidence, devez-vous penser. J'ai vérifié depuis. La présence de bébé dans un avion est loin d'être un hasard exceptionnel. Elle est au contraire fréquente, notamment sur les longues distances à l'occasion des vacances. En pleine mondialisation économique, il faut bien que les familles se retrouvent autour d'un sapin, d'un gâteau d'anniversaire, d'un mariage, d'un enterrement ou de tout autre événement. On ne le remarque pas, mais je le sais maintenant, les avions grouillent de bébés. Au départ, Vatelier me l'a avoué. Cela a plutôt amusé son équipe. Deux bébés. Comment savoir lequel était le survivant ? En fait, les flics devaient penser que l'enquête serait brève. Il n'est pas difficile de faire parler un bébé. Ses yeux, sa peau, son sang, ce que contient son estomac, ses habits, ses affaires personnelles, ses proches, autant d'indices sans doute plus que suffisants. Sauf qu'il fallait faire vite. Les flics avaient une horde de journalistes aux trousses. L'affaire était une aubaine pour les médias. Vous pensez, une seule orpheline pour deux familles. Et puis... c'était tout de même l'avenir d'une gamine qui était en jeu. On n'allait pas la laisser des mois à la pouponnière de l'hôpital de Belfort-Montbéliard, Il fallait en urgence instruire l'enquête, délibérer, choisir, la rendre à sa famille. Léonce de Carville dépêcha sur Montbéliard, dès le 23 décembre à 14 heures, une meute d'avocats parisiens, tous payés à prix d'or, chargés de coller au basque des enquêteurs de Vatelier et de vérifier chaque détail. Sur le plan juridique, l'affaire était complexe. La chancellerie trancha pourtant en quelques heures. Le commissariat de Montbéliard était chargé de l'enquête, mais la décision finale serait prise par un juge pour enfants, après l'audition de l'ensemble des parties et témoins. À huis clos, bien entendu. La décision devait être rendue au plus tard fin avril 1981, afin de ne pas perturber la sécurité affective de l'enfant, qui resterait placé en pouponnière au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. Pour mener l'instruction, la chancellerie nomma dans la foulée, sans surprise, le juge Jean-Louis Le Drian, l'une des pointures du tribunal de grande instance de Paris, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur les enfants nés sous X, les recherches d'identité, l'adoption, le genre incontournable. Dès le lendemain, le 24 décembre, le juge Le Drian parvint à réunir tant bien que mal, en fin d'après-midi, un groupe de travail improvisé, pas plus enthousiaste que cela à l'idée de passer une partie du réveillon sur cette affaire. Vatelier, le commissaire de Montbéliard, Morange, le docteur qui avait veillé la petite miraculée depuis la veille, et Saint-Simon, un flic de l'ambassade de France en Turquie, qui communiquait avec eux par téléphone. Ils m'ont tous raconté par la suite cette réunion surréaliste dans un grand bureau parisien, avenue de Suffren, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel éclairée dans un ciel blanc d'hiver. Une promesse de réveillon de Noël sans guirlande ni cadeau. Leur gosse, qui les attendait au pied du sapin pendant qu'eux pesaient avec précision et professionnalisme l'avenir d'une gamine de 3 mois. Le juge Le Drian était emmerdé. Il connaissait les Carville, vaguement. Il les avait croisés dans une ou deux soirées parisiennes où quelques centaines de personnes se pressent dans les grands salons d'immeubles haussmanniens. Je me mets à sa place. Au fond de sa tête, une petite voix devait lui souffler. Pourvu que la gamine soit bien la petite fille de Carville. Sinon, je suis dans la merde. Une chance sur deux. Pile ou face. Mais la pièce, à première vue, ne semblait pas vouloir retomber du bon côté. Quand j'ai rencontré le juge Le Drian, des années plus tard, il avait toujours la même allure qu'à l'époque de l'affaire. Pointu, précis, tiré à 4 épingles, écharpe mauve un peu plus claire que sa cravate pourpre. À se demander comment, coincé dans son costume, il pouvait inspirer confiance à des enfants traumatisés et recueillir leurs confidences. Le juge avait filmé toutes les réunions. Il m'a confié les bandes. Il n'avait rien à refuser au Carville. Cela me permet d'être précis. Vous aurez droit au son et à l'image. Pour le verdict, par contre, je vous laisse juge. C'est le cas de le dire.
Je vais essayer d'être le plus bref possible, commença Le Drian. Nous sommes tous pressés, n'est-ce pas? Je vais commencer par les informations qui concernent Lise Rose de Carville. La petite est née à Istanbul il y a un peu moins de 3 mois. Seuls ses parents la connaissent vraiment, mais Alexandre et Véronique de Carville ont emporté avec eux, dans l'Airbus Istanbul-Paris, tout ce qui concernait Lise Rose. Ses jouets, ses habits, ses photos, ses médicaments, son carnet de santé. Tout a disparu dans l'incendie de l'avion. Saint-Simon, côté turc, vous avez déniché d'autres témoignages ?
La voix nasillarde du flic de l'ambassade turque grésilla dans le haut-parleur du téléphone posé sur la table.
Non, pas vraiment. À l'exception de quelques domestiques turcs qui ont aperçu Lise Rose à travers le voile opaque d'une moustiquaire, le seul témoin oculaire de la petite reste sa grande sœur de 6 ans, Malvina. Vous voyez ?
Le Drian sentait déjà que l'affaire commençait à tourner au vinaigre. Dans ce cas, lorsque les événements lui échappaient, il se levait et tirait sur le bout de son écharpe afin que les deux extrémités qui pendaient le long de sa veste soient exactement de la même longueur. Une manie comme une autre. Bien entendu, par le plus grand mystère du frottement des textiles, Cette fichue écharpe mauve passait son temps à glisser, soit à gauche, soit à droite, sans même que le juge ait l'impression d'esquisser le moindre mouvement du cou. Le commissaire Vatelier observait le tic du juge avec un sourire à peine dissimulé dans sa barbe. Il enchaîna.
J'ai parlé longtemps avec les grands-parents Carville. Enfin, surtout avec Léonce de Carville. Ils ne connaissent de leur petite fille que quelques descriptions téléphoniques floues. Ils possèdent également une photographie de Lise Rose, prise à la naissance, envoyée par courrier avec le faire-part de naissance. Qu'est-ce qu'elle montre, cette photographie ?
Le commissaire Vatelier grimaça.
Oh, presque rien. Sa mère est en train de donner le sein à sa fille. Lise Rose est de dos. On devine un cou, une oreille, rien de plus.
Le juge Le Drian tira nerveusement son écharpe sur sa droite. Décidément, ça se présentait plutôt mal pour les Carville.
Si vous me permettez d'anticiper un peu, sachez que dans les semaines qui suivirent, Léonce de Carville convoqua des experts très sérieux qui affirmèrent que l'oreille du bébé miraculé était identique à celle de Lise Rose sur sa photographie de naissance. J'ai depuis regardé en détail les clichés et les analyses. Il fallait vraiment une bonne dose de mauvaise foi pour en tirer une quelconque certitude, dans un sens ou dans l'autre. Le juge Le Drian n'en était pas là. Il continuait d'explorer la généalogie de la miraculée.
« Et les grands-parents maternels de Lise Rose ? »
demanda-t-il. Vatelier, le commissaire de Montbéliard, observa avec tristesse la tour Eiffel brillante comme un immense sapin de Noël. Puis, en consultant ses notes... Véronique, la mère de Lise Rose, est le quatrième enfant d'une famille québécoise, les Bernier, qui en compte 7, ainsi que déjà 11 petits-enfants. Véronique avait déjà mis pas mal de distance avec sa famille lorsqu'elle a rencontré Alexandre à Toronto à l'occasion d'un séminaire de chimie moléculaire. Les Bernier semblent soutenir les Carville, timidement.
« Ok, on essaiera de creuser de ce côté-là, » fit Le Drian. « Passons à Émilie Vitral. Apparemment, elle laisse davantage d'indices derrière elle. »«
Ouais, » soupira Vatelier. « Même si son carnet de santé, sa valise, ses biberons, ses bavoirs ont eux aussi disparu en fumée avec l'avion. Je vais être précis. De sa naissance à ses 2 mois, ses grands-parents ont vu leur petite fille 5 fois. » Dont 2 à la clinique de Dieppe la semaine de la naissance, et 1 le jour du départ en avion, lorsque Pascal et Stéphanie sont venus laisser Marc en pension chez eux. Mais la petite dormait alors profondément. Le commissaire se tourna vers le docteur Morange, qui prit la parole pour la première fois.
« J'étais présent lorsqu'ils ont vu le bébé à l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Les vitrales ont reconnu immédiatement leur petite fille. »
« Bien entendu, » glissa Le Drian. « Bien entendu, il n'allait pas dire le contraire. »
Le juge souffla avec lassitude. Ses doigts agacèrent son écharpe, un coup à gauche. Le commissaire Vatelier éleva le ton.
« On n'allait tout de même pas aligner 4 bébés numérotés et faire reconnaître le bon par ses grands-parents devant une vitre sans teint. »
« Vous auriez peut-être dû, » insista Le Drian sans rire. « On aurait gagné du temps. »
Le commissaire haussa les épaules et poursuivit.
Pour couronner le tout, les grands-parents Vitral ne disposent d'aucune photographie. D'après eux, Stéphanie avait constitué un petit album photo sur sa fille, 12 clichés dont elle ne se séparait jamais. On peut supposer que lui aussi a disparu dans les flammes.
Et les négatives des photos ?
Demanda le juge. La gendarmerie de Dieppe a tout fouillé dans l'appartement des parents Vitral, de la moquette au plafond. Pour retrouver ces foutus négatifs. Sans succès pour l'instant. Sans doute Stéphanie les avait-elle emportés eux aussi ? Peut-être dans la pochette de l'appareil photo ? Peut-être.
Je les ai cherchés moi aussi par la suite, ces foutus négatifs.
Vous pensez, une photo du bébé. Inutile d'entretenir le suspense, sur ce plan-là au moins. Je peux vous le dire dès maintenant, on ne les a jamais retrouvés. Outre l'hypothèse de leur disparition dans l'avion, ou d'une invention pure et simple de la part des Vitral, j'ai toujours pensé que Léonce de Carville avait pu intervenir, Visiter l'appartement de Pascal et Stéphanie Vitral avant que les flics y pensent. Faire disparaître toutes les pièces compromettantes. Il en était capable. Ça vous donne une idée de l'étendue des possibilités. Le juge Le Drian sentait sa nuque s'humidifier, l'écharpe glisser irrésistiblement comme un serpent sur son épaule. Cette affaire commençait à empester le casse-tête judiciaire.
« Bien, fit-il, on a presque fait le tour. Le reste de la famille d'Émilie Vitral, l'impasse également ?»«
Pour ainsi dire, répondit le commissaire Vatelier. La mère, Stéphanie, était orpheline, née sous X. Elle a été élevée en maison d'enfance à la Fondation d'Auteuil, à Rouen. Elle a craqué pour Pascal Vitral à la terrasse d'un café alors qu'elle n'avait pas 16 ans. Si je résume, la petite Émilie, si c'est elle qui a survécu, n'a plus dans la vie que ses grands-parents, Pierre et Nicole Vitral, et son grand frère, Marc. »
Le regard du juge Le Drian se perdit loin derrière la grande baie vitrée, au-dessus des lumières formant la constellation de la tour Eiffel, à la recherche d'une direction, d'une quelconque étoile du berger, à suivre aveuglément en cette nuit de la nativité. Je pourrais continuer comme cela longtemps, ou décrire les heures de palabres, d'arguments et de contre-arguments. Outre les films des réunions, ce sont près de 3000 pages d'enquête qui se sont accumulées chez le juge Le Drian lors des semaines suivantes, que j'ai épluchées moi aussi, et je ne vous parle pas de mes archives personnelles. N'ayez crainte. J'y reviendrai par la suite, au moins sur les détails qui m'ont semblé importants. Mais je pense que vous commencez à percevoir la difficulté, le dilemme des enquêteurs. Pas facile de se faire une idée, n'est-ce pas? De quel côté faire retomber la pièce? Je n'y suis pas parvenu au bout du compte. Je vous laisse tous ces indices en héritage, à vous de jouer. Mais je vous vois venir, et la science alors, les habits, le sang, les yeux, tout le reste. J'y viens. Vous n'allez pas être déçus.